Bienvenue dans Au cœur du pain, le premier podcast de la Fédération des entreprises de boulangerie qui décrypte les enjeux de la filière boulangerie, viennoiserie, pâtisserie. Au micro tous les 15 jours, vous entendrez des acteurs du monde de la boulangerie qui vous feront découvrir leur métier, leurs histoires et leurs innovations afin de répondre aux enjeux actuels en matière d'écologie, d'inclusion et de meilleure qualité de vie au travail, entre autres. Avec ce podcast, nous vous dévoilerons les coulisses de la filière. Ce podcast est réalisé par la FEB en partenariat avec AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale, acteur majeur de la santé, prévoyance, retraite et solutions d'épargne. Cette semaine, nous avons l'honneur d'accueillir Olivier Lebreuilly, un visionnaire qui réinvente la boulangerie traditionnelle à travers des concepts novateurs et audacieux. Olivier travaille avec son épouse Sophie. Ensemble, ils ont fondé la boulangerie Sophie Lebreuilly, une enseigne qui se distingue par son approche moderne et entrepreneuriale du métier. Dans cet épisode, nous allons explorer la transformation de la boulangerie artisanale en discutant des nouveaux concepts qui révolutionnent le secteur. Olivier Lebreuilly partagera avec nous son expérience de néo-boulanger et d'entrepreneur, nous dévoilant comment il a su marier tradition et innovation pour créer une nouvelle dynamique dans le monde de la boulangerie. Nous aborderons les défis qu'il a rencontrés, les stratégies qu'il a mises en place et les tendances émergentes qui façonnent l'avenir de cette profession ancestrale. Préparez-vous à découvrir un univers où la passion du pain se conjugue avec l'audace entrepreneuriale et laissez-vous inspirer par le parcours d'Olivier Lebreuilly. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast Au cœur du pain, produit par la FEB.
Merci de m'inviter.
Avec grand plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui ?
Alors on est à Cuques, pas très loin de notre siège, dans la boutique un peu témoin qui fait 500 mètres carrés, qu'on a ouvert il y a 3 ans, qui regroupe vraiment le concept dans sa globalité, c'est-à-dire que vous êtes ici dans un lieu de gourmandise à 360 degrés, il y a la partie boulangerie très traditionnelle, mais on a aussi un espace canapé, un espace salon de thé, un espace restauration, et vous l'entendez peut-être, mais il y a un espace d'air de jeu pour les enfants, qui marche très très fort à la fois le mercredi, et on est mercredi, mais qui marche aussi pendant les vacances scolaires, et on est aussi en période de vacances scolaires, donc ce matin il y a des parents qui sont là avec les enfants qui prennent un chocolat chaud, une part de flan, et les enfants s'amusent dans l'air de jeu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de bruit pendant ce podcast.
Oui, mais c'est vivant.
Oui, il y a 10 ans, quand on se lance dans cette aventure entrepreneuriale avec Sophie, on se dit, on veut pas faire une boulangerie classique, on veut que ce soit plus qu'une boulangerie, on veut que ce soit un vrai lieu de vie. Alors à l'époque, la première boutique, il y a 10 ans, elle faisait que 200 mètres carrés, on n'avait que 10 ou 15 places assises. Bon, voilà, maintenant les nouveaux formats font plutôt entre 400 et 500 mètres carrés parce que toute la part du snacking, de la restauration, du lieu de gourmandise prend de plus en plus de place. Et finalement, dans notre modèle, ouais, avoir des grands espaces permet d'exprimer pleinement le concept et d'avoir une vraie vision à 360 degrés.
Alors justement, il y a pas mal d'articles qui sortent en ce moment sur les nouveaux concepts. On vous appelle les néo-boulangers. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est les néo-boulangers pour vous et votre concept ?
On s'est longtemps cherché avec Sophie de se dire mais qu'est-ce qu'on est et on avait presque parfois un peu honte ou du moins on était gêné, on n'assumait pas notre positionnement. Et en fait aujourd'hui on l'assume totalement. Notre positionnement c'est quoi ? C'est d'être une boulangerie nouvelle génération. Une boulangerie nouvelle génération c'est une boulangerie qui accueille ses clients très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, qui s'habitue finalement au lieu de consommation. C'est une boulangerie qui offre des services, le click and collect, du wifi, une largeur de gamme assez large. On n'est pas que boulanger, on est aussi restaurateur et on est aussi cette notion de salon de thé. La boulangerie nouvelle génération, c'est une boutique qui est ouverte du lundi au dimanche de 6h30 à 20h. Je pense notamment à l'exemple du dimanche après-midi. Souvent on dit que les boulangeries sont fermées, bah non, elles sont ouvertes parce que c'est un lieu de vie, parce que pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas envie le dimanche soir à 20h d'avoir une baguette fraîche, une baguette chaude, et c'est aussi ça la force du concept. Donc oui, aujourd'hui on le revendique, on en est fiers, on est des entrepreneurs de la boulangerie. Ni Sophie ni moi n'avons de CAP boulanger. Et pour autant, on s'épanouit pleinement dans ce métier. On a appris, on fait rien seul. On a une équipe de boulangers, on a une équipe de cuisiniers, on a une équipe de pâtissiers. Mais on a donné tous les codes de l'entrepreneuriat à ce métier ancestral. Voilà, c'était un peu notre vision aujourd'hui.
Et alors, comment elle est venue, cette idée ?
Alors, Sophie et moi, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans, Sophie bossait chez VentePrivé.com et moi, je travaillais au Crédit du Nord en banque. On a toujours eu envie de monter notre boîte. C'était vraiment quelque chose on avait ça dans les tripes. On était fan de gastronomie. Donc la solution de facilité, ça aurait été d'ouvrir un restaurant. Mais à l'époque, Sophie venait tout juste d'accoucher de notre premier enfant. Et on se dit, ouais, une vie de famille avec la restauration, c'est quand même compliqué, puisque bah, la restauration, ce métier de coupure, on se couche tard. Et à l'inverse, on s'est dit, bah, tiens, la boulangerie, c'est l'inverse. On va se lever tôt, mais tous les soirs, on sera à la maison. Et on sentait, il y a un peu plus de 10 ans, un métier en pleine transformation, un métier qui change. Et c'est comme ça qu'un beau jour de 2013, on s'est dit, tiens, allez, on va à fond dans la boulangerie. Je me souviens encore de mes parents à qui j'ai dit bah, « je vais quitter le Crédit du Nord, la banque pour la boulangerie ». Ils m'ont un peu regardé avec des grands yeux. Et puis on s'est fait accompagner par un meunier qui est toujours mon meunier aujourd'hui et qui m'a appris les codes. Et puis bah, en 10 ans, on a fait des erreurs. On a essayé de ne pas se brûler 2 fois sur la même erreur. Et puis on a appris, on s'est bien entouré. Puis on a grandi et grossi.
Mais donc avec Sophie, vous aviez une idée d'un concept déjà comme ça ?
Oui, quand même. Dès la première boutique, déjà il y avait l'idée de se dire « il nous faut des places assises ».
Okay.
Et alors ça paraît aujourd'hui tellement normal dans une boulangerie d'avoir des places assises, mais je peux vous dire qu'en 2014, quand on ouvre, il y a peu de boulangeries et peu même de concepts de boulangerie comme on les connaît aujourd'hui parmi nos concurrents. Bah c'était un peu entre guillemets révolutionnaire. Et après, on s'est dit qu'on doit prendre toutes les forces de l'artisanat. On reste une boulangerie artisanale, même si on est néo-boulanger, même si on est boulangerie nouvelle génération, on est des artisans. Oui, j'ai des artisans boulangers dans toutes mes boutiques. Mais on voulait un concept, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire on prend toutes les forces du modèle de la boulangerie, de produire sur place des produits de qualité, de la restauration de qualité. Par contre, on y amène tous les codes d'un concept ou du marketing, de la mise en avant de produits, de la promotion, des offres, de la fidélité, bref, tout ce qui va autour pour faire un concept de boulangerie. Donc on a ouvert cette première boutique en 2014. Et puis un an plus tard, il y a un bel emplacement qui se propose pas très loin d'ici. Bah, on a ouvert la deuxième boutique. Quand on a ouvert la deuxième boutique, on s'est dit tiens, finalement, dupliquer, c'est faisable. J'ai pris la moitié de l'équipe de la première boutique pour l'emmener dans la deuxième boutique. Et c'est là où on a touché du doigt le côté concept. Et puis une deuxième, on a fait une troisième, une quatrième, une cinquième. Et on ouvrira demain la 70e boulangerie. Voilà.
Et donc, vous proposez des offres, il y a une idée de la fidélité aussi, ouais, avec des cartes, des points, j'imagine, plus du service que vous avez ajouté. À quel moment, service ?
Alors, le service, il est venu après, il est venu juste avant le Covid pour la partie, okay, Click and Collect, et ça nous a aidé pendant la période du Covid. On l'avait lancé en 2019, ce Click and Collect, qui prenait doucement, et forcément, le Covid a été un accélérateur parce que les gens, avec l'application, commandent et retirent. Et c'est quelque chose qui, maintenant, marche très bien le matin, le midi pour le service du midi, pour la restauration. Et le soir, à 18h, des gens qui ne veulent pas faire la queue, ils commandent leur baguette ou leur viennoiserie pour le lendemain et ils ne font pas la queue. Donc il y a ça. Dans les services, il y a tout ce qui est avoir le Wi-Fi, pouvoir se poser. On est dans des boutiques sur des axes de passage et on a une grosse clientèle de commerciaux féminines. Pourquoi ? Parce qu'elles sont sur la route toute la journée et finalement elles sont contentes de venir s'installer 1 heure, 2 heures, se laver les mains, manger rapidement, mais pendant ce temps-là elles ouvrent l'ordinateur, elles travaillent et du coup on est un vrai lieu de vie. Et donc cette notion de service, c'est d'avoir des prises électriques, d'avoir du wifi. On a maintenant dans nos boutiques des bornes de retrait de colis. Dans la notion de service, on y met toute la gamme d'épicerie et puis dans cette notion de service, bah, du parking pour se garer facilement et les horaires d'ouverture. J'insiste dessus, mais en fait il faut s'adapter à ses clients, et les clients rentrent tard, et le client qui arrive à 19h, il ne doit pas tomber face à une boutique vide. Donc on travaille, on essaye, tout en luttant contre le gaspillage, on essaye que le dernier client puisse quand même se faire plaisir pour pas arriver. J'ai trop connu dans le passé, vous arriviez à 18h dans une boulangerie, il y avait déjà plus de baguettes. Ah bah non, j'ai plus de baguettes, ce sera demain. Ouais, mais bah moi, nous, la règle, c'est que jusque dernier moment, le client doit pouvoir acheter de la baguette. On fait de la cuisson à la demande, ce qui permet que les équipes, elles savent gérer jusqu'au dernier moment la cuisson de pain.
Oui, donc tu l'as dit, hein, d'ailleurs tu utilises le terme boutique plus que boulangerie, ou peut-être de manière équivalente. Et une des particularités de votre modèle, enfin de ce modèle des néo-boulangeries où on allie le service, l'offre et la boulangerie, c'est que vous êtes quand même principalement sur des axes un peu en bord de ville. Vous êtes...
Oui, le modèle, il est... On a appelé ça souvent la boulangerie des ronds-points. Ouais. C'est le cas, mais c'est le cas parce que nous, chez Sophie, on s'est principalement installé dans des villes rurales. C'est-à-dire que nous, la bonne cible, c'est des villes de 5 à 15 000 habitants. Et dans ces villes, la place de la voiture, elle est stratégique pour aller de la maison au travail. Donc, axe de passage. Je ne dis pas que le modèle ne peut pas fonctionner en centre-ville. D'ailleurs, on a quelques boutiques en ultra-centre-ville, mais c'est complètement différent. Notre positionnement à nous, c'est vraiment la ville rurale, 5 à 15 000 habitants. Et dans ces villes, souvent, il y a un pseudo-périphérique ou un contournement, un rond-point, souvent une attractivité commerciale. Ça peut être un supermarché, ça peut être voilà, un lieu de vie, et c'est là qu'on vient s'installer.
Donc vous êtes quand même, il y a une sorte de, enfin, il y a quand même une success story des boulangeries Sophie Lebray.
Oui, c'est vrai qu'en 10 ans, se dire qu'on aura ouvert 70 points de vente, c'est une grande fierté pour Sophie et moi, mais c'est aussi une très belle aventure humaine. On n'aurait pas fait tout ça sans deux choses, c'est-à-dire sans les équipes du quotidien, celles qui sont en boutique et qui accueillent le client. Et j'ai la chance d'avoir construit avec moi depuis 10 ans une équipe de management intermédiaire. Ça, je pense aux responsables de secteur, je pense aux directeurs de région, je pense à ma DRA, je pense à toutes ces équipes qui nous entourent avec Sophie, qui chacun à leur niveau, Sophie et moi sommes des entrepreneurs, mais j'ai autour de moi des intrapreneurs. Des gens qui, avec nous, créent cette boîte et la développent. Et on est, je dis souvent, nous, on est une start-up de la boulangerie. On a une équipe assez jeune, on n'a pas froid aux yeux, on y va. Une fois de plus, on fait des erreurs, on se brûle, mais on essaye de ne pas se brûler deux fois sur la même erreur. Donc, ouais, c'est une belle aventure humaine.
Et il faut quoi comme qualité pour se lancer comme ça, 10 ans en arrière ?
Ah, c'est une bonne question. Il faut de l'audace. Et il faut aussi beaucoup de franchise avec soi-même et éventuellement avec son associé. Donc là, moi, je pense à Sophie. Il y a 10 ans, pour lancer ce concept, comment on fait ? On avait acheté à Paris il y a 12-13 ans. Et en fait, on vend notre appartement. C'est la vente de cet appartement qui est le fruit de notre apport qu'on investira dans la boulangerie. Donc à l'époque, on investit 150 000 euros. Et je me souviens très bien avoir une discussion très posée avec Sophie, de se dire, donc on avait à peu près 30 ans à l'époque. Et je dis à Sophie, ce qui est important, c'est que tous les deux, on se dise droit dans les yeux, ok, on va tout mettre dans cette boîte. Consciemment, est-ce qu'on est tous les deux d'accord de tout perdre ? Parce que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est, on peut devenir riche, très 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 riche, mais on peut aussi tout perdre. On y croit, bien sûr, on réfléchit bien à notre concept, on réfléchit bien à l'emplacement, mais on devait être capable de tout perdre. C'est ce qu'on a fait. Ça n'a pas toujours été simple. On a connu la crise des gilets jaunes, on a connu le Covid, on connaît aujourd'hui l'inflation, on connaît la crise énergétique. La vie de chef d'entreprise, ce n'est pas un long fleuve tranquille.
Le podcast, il est pour les jeunes. Est-ce que tu penses que toi, venant du monde de la banque et Sophie venant du monde du marketing, ça fait comme une alliance parfaite pour lancer un concept. Mais comment est-ce qu'on pourrait aider un jeune à se lancer ?
Alors, en effet, d'abord, quand on travaille avec des fonds d'investissement, il faut être très accompagné. C'est-à-dire qu'il faut prendre des avocats spécialisés. Il faut vraiment aller voir des gens spécialisés qui vont vous accompagner pendant tout le process. Et pour l'anecdote, c'est pas parce que j'ai travaillé en banque que j'ai pu avoir des fonds d'investissement. Puisque moi, je travaille dans une banque vraiment de détail et je n'avais aucune relation avec des fonds d'investissement. Aujourd'hui, toute la procédure des levées de fonds est en train de se démocratiser. Et d'ailleurs, toutes les startups font plein de levées de fonds, et les start-upers, c'est souvent des jeunes qui sortent d'école. Donc en fait, il faut casser les codes. Venez bosser en boulangerie. La boulangerie, c'est une entreprise comme les autres, dont le secteur d'activité est de la vente de pain, de restauration, mais ça reste une boîte comme les autres. Donc, elle est à destination de tous les jeunes qui ont fait une école de commerce ou pas d'école de commerce, qui ont envie d'entreprendre, puisque finalement, l'entrepreneur de demain qui est dans la boulangerie, c'est avant tout un commerçant. Et donc, en fait, peu importe son secteur d'activité, peu importe son âge, s'il a cette fibre entrepreneuriale et commerçant, venez dans le secteur, il y a tellement de choses à faire. J'étais convaincu déjà il y a 10 ans que c'était un marché en pleine transformation, mais je ne touchais même pas du doigt ce que c'était réellement et toute la transformation qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que le secteur dans 10 ans sera encore totalement différent d'aujourd'hui. Et il y a tellement d'opportunités en France.
Mais à l'étranger.
Et demain à l'étranger. On a cette chance, l'image pain, l'image traditionnelle. Je dis souvent que l'avenir de notre métier réside dans son passé. Ou du moins l'avenir de notre métier réside dans ces valeurs du passé. Il ne faut jamais qu'on oublie d'où on vient, c'est-à-dire le pain, le côté farine, production, qualité, ça c'est la base. Et bien maintenant, amenons-y toute la modernité de l'offre, de la mise en avant, du service.
Tu as dit qu'il faudrait que dans les écoles de commerce, il y ait une filière boulangerie.
Ah, ça c'est un grand rêve. Je rêve de créer une école de commerce dédiée aux métiers de l'artisanat et des métiers de bouche. Je trouve qu'on est trop réducteur sur ce côté. T'as 18 ans, tu rêves d'être boulanger, tu rêves d'être boucher. Et ben on va te dire, va faire un apprentissage. Mais quelle erreur! Pourquoi est-ce que tu ferais pas à tes 18 ans, et moi c'est ce que j'ai fait, j'ai fait une école de commerce post-bac, et ben tu irais faire 5 ans dans une école de commerce spécialisée dans les métiers de la bouche, qui dirait quoi? Qui dirait, j'ai un tronc commun de comptabilité, de marketing, de droit, de levée de fonds, de gestion au sens large, et à côté, eh ben, j'ai une dominante, si je préfère le pain, ben, j'ai une dominante boulangerie, j'ai une dominante boucherie. Et ce qui permettrait au bout de 5 ans d'avoir des entrepreneurs qui ont eu une vision à 360 degrés de la gestion d'un point de vente, du marketing, de comment se renouveler et des compétences techniques. Et ça serait une bonne association des deux.
Donc c'est une archive de 1983 issue d'un journal de France 3 région, Nord-Pas-de-Calais, qui parle donc du métier de boulanger et de boulangère. Et je veux bien que tu réagisses à cette archive. Et à la fin, on entend le président du syndicat de boulangerie du Nord.
La boulangerie a de l'avenir. Il n'est qu'à regarder ces boulangers-pâtissiers de quartier pour s'en convaincre. Au fournil, dès 2h du matin, ils préparent le pain qui sera tout chaud tout à l'heure pour les premiers clients. Ici, le boulanger reste un manuel, un artisan. Son seul luxe, peut-être, c'est le four, dont la technique ne cesse d'ailleurs de s'améliorer. Four rotatif, four à air pulsé, four économe, facile à manœuvrer, facile à régler. Mais le métier reste un métier dur, car il y a la chaleur et il y a surtout le travail de nuit, même s'il ne le considère pas comme une charge, avec la force de l'habitude. Ces artisans acceptent mal cependant les nouvelles machines qui pèsent, qui coupent, qui façonnent pour eux. Eux, ils préfèrent le coup de lame, véritable signature de l'artisan boulanger. Ils préfèrent la main à la pâte. Presque toujours, l'artisan travaille en famille. La femme prépare le magasin, la femme sert les clients. Mais au-delà, elle assure un rôle social, un rôle d'échange. Et aujourd'hui même, en fait, le boulanger, n'est-ce pas plutôt la boulangère?
Ben oui, vous direz. Au revoir, monsieur, merci.
À 90%, le succès d'un boulanger revient à la boulangère. J'aime mon boulanger, on le voit souvent sur les slogans, mais j'aime ma boulangère, je crois que c'est un bulletin de vote qu'on apporte tous les jours à sa boulangère, étant donné qu'elle est là pour juger et de la personnalité du petit client, du plus pauvre au plus riche, du plus jeune au plus vieux. Et je crois que c'est le boulanger qu'on recouvre toutes les classes de société. Et pour moi, c'est un symbole, c'est une véritable communion et une véritable synthèse dans le domaine humain pour retrouver, je dirais, une question sociale, une question justement de relations publiques qui nous manque quelquefois dans les quartiers, qui nous manque quelquefois dans les villages sans boulanger.
Je souris parce qu'il y a, plein de choses qui sont encore tellement vraies aujourd'hui. Quand on voit et qu'on écoute le boulanger qui travaille, quasiment rien n'a changé.
Sur les gestes,
on parlait de modernité du four. Oui, on a des fours encore plus modernes aujourd'hui qui nous permettent notamment de faire des baguettes de tradition top. Mais le pétrissage, la fabrication du pain, elle a en rien changé. C'est toujours aujourd'hui de la farine qui arrive en sac de 25 kilos, qui est pétrie avec de l'eau et il y a pas de mécanisation. Et donc on est vraiment ça reste à 100% valable aujourd'hui. La deuxième chose qui me fait sourire, c'est dans le reportage, ils disent le plus important, c'est pas le boulanger, c'est la boulangère. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui. Vous pouvez faire le meilleur pain du monde. Si vous n'avez pas un bon accueil client, si vous n'avez pas un sourire, si vous n'avez pas le lien social qui est dit, ben, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on parlait des métiers en tension. Mmh. Je dis souvent que l'un des métiers les plus importants chez nous, c'est la responsable de magasin.
Donc, il faut la boulangère.
Exactement. Il faut des bons boulangers, bien sûr, pour avoir du bon pain. Mais le rôle du responsable de magasin, le rôle de la boulangère, il est stratégique. C'est lui qui dit bonjour, c'est lui qui accueille, c'est lui qui conseille, c'est lui qui connaît ses clients. Et on dit chez nous, que pour l'anecdote, sur les 70 magasins, on a 70 femmes responsable de magasin, voilà, c'est l'anecdote, on a 70 responsables de magasin, parce qu'elles ont le sens du détail, elles ont le sens de l'accueil, et on dit souvent que nous, on veut que nos responsables soient les meilleurs commerçants du coin, ils sont impliqués dans la vie locale, dans le club de foot, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont encore
vrai, oui.
Ah, totalement vrai aujourd'hui.
Et les entrepreneurs que tu peux rencontrer ou les jeunes, est-ce que votre modèle en inspire d'autres? Est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent te voir pour avoir des conseils?
Alors oui, je suis assez impliqué dans le tissu local et j'aime bien retransmettre. Et parfois, on me pose la question de comment tu as fait pour aller aussi vite? C'est quoi tes clés? Et souvent, revient le côté humain, bien s'entourer et bien impliquer les équipes pour aller vite. Et après, on aime bien souvent me demander des questions sur la notion d'une levée de fonds, C'est vraiment quelque chose qui peut faire un peu peur. Donc moi, j'aime beaucoup le désacraliser, dédramatiser et bien expliquer ce qu'est l'intérêt d'un fonds d'investissement.
Effectivement, tu as évoqué le fait que ça allait vite. C'était un souhait que ça aille si vite. Vous aviez un plan ?
Non, on n'avait pas de plan, mais je ne sais pas dire non aux opportunités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, quand je vois un bon emplacement où je me dis qu'il y a quelque chose à faire, il faut qu'on le fasse. Donc oui, quand on ouvre 30 boutiques l'année dernière, c'est parce qu'on a trouvé 30 sites qui nous plaisaient beaucoup et on les a fait. Donc je suis retapé 3 fois, 4 fois à la porte du fonds d'investissement des banquiers en disant on doit y aller. Il y a des choses à faire, on ne va pas s'arrêter. Il faut avancer.
Il faut persévérer beaucoup.
Alors, c'est mon ADN à moi, c'est-à-dire que j'aurais tendance à faire et corriger ce qui a été mal fait, mais d'abord je fais. Si j'attends toujours que ça soit parfait pour avancer un pas de plus, ben en fait on n'avance pas. Donc moi c'est ma vision, c'est on avance le pas et on viendra corriger ce qu'il y a besoin de corriger tout en s'organisant, se structurant. Je voudrais revenir sur un point tout à l'heure, on a évoqué le rôle aussi des équipes, du lien social et du développement des néo-boulangeries. Ce qu'il faut se dire, et je me bats avec mes équipes, c'est que derrière chaque boutique, il y a un artisan boulanger, il y a une vendeuse, il y a un responsable de magasin qui eux-mêmes...
C'est un écosystème ?
Oui, c'est ça que je veux dire.
Il y a une dynamique.
Il y a une dynamique et c'est leur boutique à eux finalement. Ok, ils sont dans la concept Sophie Leroy, mais c'est avant tout leur boutique à eux. J'ai une pensée pour Sandrine, une de mes responsables de magasin dans le Nord, près de Lille. Je te jure que c'est sa boutique à elle. Alors oui, elle travaille sous l'enseigne Sophie Leroy, elle travaille avec Sophie, qu'elle connaît bien. Mais Sandrine, tous les jours, elle va dans sa boutique.
C'est ce qui fait le succès, tu penses ?
J'en suis convaincu.
Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes ?
Croyez dans vos rêves. Foncez. Et si vous êtes jeune, foncez et n'ayez pas peur de l'échec. C'est-à-dire que ouais, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Je le redis, c'est ma fameuse règle. Il ne faut pas se brûler deux fois sur la même erreur. C'est-à-dire que tu fais une bêtise, ce n'est pas grave. Par contre, il ne faut pas la refaire une deuxième fois parce que là, ça devient grave. C'est-à-dire que tu n'as pas appris de tes erreurs. Mais sinon, il faut y aller. Le premier projet ne sera peut-être pas le bon. Avant de faire la boulangerie, j'ai essayé, je n'ai pas sauté le pas, mais j'ai regardé 2 autres projets et puis je n'y suis pas allé. Tant pis, je suis revenu dans le salariat et puis il a fallu qu'il y ait ce projet de boulangerie pour que je saute. Donc, il faut tester, il faut y aller. Il ne faut pas avoir de regrets, quoi, que croire en ses rêves et puis ne pas avoir peur que ça ne marche pas.
C'est le mot de la fin ?
Oui, croyez dans vos rêves.
Merci beaucoup, Olivier.
Merci.
Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner sur vos plateformes d'écoute préférées. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours